te, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenir, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatal, pas du tout. On ne la considère pas fatal. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions et vous retirez sur le côté gentiment. Monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'école des Garrigues à Montpellier, Canassil à Toulouse, Radio Primitive sur Reims. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. La semaine dernière, on avait ici parlé de ce qui se passait à Paris concernant l'immigration tunisienne et en particulier l'occupation de la rue Bolivar, d'un espace là-bas. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Au téléphone, notre envoyé spécial est sur place. Jean-Michel, bonjour.
Bonsoir.
Alors un peu, je crois que depuis une semaine, il s'est passé beaucoup de choses, en particulier cette évacuation tumultueuse qui a eu lieu de l'endroit où ils étaient avant, rue Bolivar. Est-ce que tu peux un peu revenir dessus ou pas?
Ouais, alors lundi, on avait Arnaud qui nous racontait un peu comment ça se passait rue Bolivar. Et mardi, en fait, les soutiens, ils commencent de plus en plus à s'organiser. Il y a de plus en plus de monde qui passe, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ce qui se passe. Les gens du quartier, ils viennent également. Et puis là, à partir de la fin d'après-midi, on commence enfin à avoir la tentative d'une permanence juridique, quoi, qui pourrait commencer à examiner les cas de demande de titre de séjour, quoi. Mais on va dire qu'il y a eu un coup d'avance de la part des flics. Il y a eu une interpellation, il y a eu 14 interpellations tout à l'heure dans un parc. Et le problème, c'est que les flics commencent à confisquer les titres de séjour italiens. Je dis les titres de séjour italiens parce que la plupart des gens qui sont ici sont rentrés par l'Italie, par Lampedusa.
Ouais.
Ils ont eu des titres de séjour délivrés par les autorités italiennes dans l'espace Schengen, hein, c'est ce qu'on disait. La plupart de ces titres sont pour encore valables. C'est 3 mois, voire 6 mois pour certains. Et les flics confisquent c'est les passeports et les cartes de séjour provisoires. Et du coup, ça bloque les demandes, quoi. Mais bon, après, de toute façon, en termes de droit des étrangers, là, de droit au séjour, il faut qu'il y ait, une innovation, quoi. C'est-à-dire que ils correspondent pas à une case particulière du droit au séjour, donc il faudrait qu'il y ait une autorisation exceptionnelle ou quelque chose qui soit fait de manière exceptionnelle pour leur permettre de séjourner en France, quoi.
Alors justement, il y a des débats là-dessus ou pas? Parce que bon, effectivement, t'as raison, ils ne rentrent pas dans la loi actuelle, surtout quand on sait la loi ce qu'elle est, hein, les sécuritaires comme c'est pas permis. Quelles sont les discussions qui ont lieu
là-dessus? Il n'y a pas trop de discussions. Bon, d'abord, il y a des gros problèmes de logistique, hein. Tu imagines bien que 150 personnes en même temps dans un endroit, ça crée des problèmes spécifiques. Donc déjà, la plupart de l'énergie, elle est consommée là-dedans.
Dans le quotidien, oui.
Ouais, et la plupart, et le problème également, c'est que la plupart des soutiens ici, ce sont pas des soutiens associatifs. Donc c'est pas des gens qui ont l'expérience du droit au séjour.
D'accord.
Donc c'est des choses qu'ils maîtrisent pas, quoi. Donc, Ce qui est sûr, c'est que les Tunisiens sont conscients que il va falloir créer un rapport de force pour pouvoir imposer ça, quoi. Alors, ce rapport de force, comment il peut être fait? Il y a plein de choses là qui sont discutées. Est-ce que ça va passer par des occupations, des manifestations, etc., etc., quoi. On est encore quand même beaucoup dans le flou, quoi. Et d'accord. En plus, les Tunisiens qui sont là, pour la plupart d'entre eux, ils viennent d'un long voyage. Hein, ils sont fatigués. Ils se remettent assez difficilement de la semaine dernière où c'était du harcèlement policier continu, quoi. Donc c'est un peu le bordel.
Ouais, d'autant plus que bon, ils n'ont qu'un visa de Schengen valable que 3 ou 6 mois, comme tu dis.
Ouais.
Donc c'est ça extrêmement précaire. J'ai sous les yeux là. J'ai sous les yeux une décision du collectif des Tunisiens de Lampedusa à Paris.
Ouais.
Suite à la réunion tenue le 8 mai au gymnase, donc, les Tunisiens revendiquent sur Paris donc des logements pour un minimum de 100 personnes par bâtiment, situés à Paris et non en banlieue, pour une durée minimum de 3 mois renouvelable, avec un lieu collectif pour se réunir et s'organiser. L'autogestion des lieux. Nous nous engageons collectivement à prendre à notre charge la sécurité, l'hygiène et le reste, et des garanties contre toute intervention des forces de l'ordre. Voilà.
Ouais. Ça, c'est les 3 revendications principales. Et pour le moment, il y en aurait une seule qui serait acceptée, c'est le foyer pour 80 et pas pour 100.
D'accord.
Donc, et voilà quoi. Hein. Bon, ça reste quand même extrêmement intéressant dans le sens où les gens sont motivés et ils ont quand même la volonté de rester ensemble. Et il y a des trucs qui sont en train de se nouer, de se lier. Donc il y a moyen, à mon avis, de déboucher sur, j'allais dire, quelque chose de positif, quoi.
Ouais. Ouais. Je crois que ça serait quand même bien s'il y avait autour d'eux des gens qui puissent les conseiller. Par exemple, normalement en France, mais Camille va pouvoir me dire un peu comment que ça se passe sur le terrain, il est illégal depuis le 28 avril, donc il y a peu de temps, d'incarcérer un sans-papier sur le simple fait qu'il n'ait pas de papier.
Oui.
Donc ça, incarcéré donc dans une prison, quoi.
Ouais.
Ce qui fait, entre autres, un truc important, c'est que les préfets vont devoir corriger leur OQTF et leur IQTF, parce que ça se termine par la mention, si vous ne quittez pas le territoire, vous encourez une peine de prison assortie de, etc.
Alors, simplement, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a déjà eu récemment, il y a des gens qui se trouvaient incarcérés, donc qui se trouvaient en CRA, qui sont passés devant le juge, les juges de liberté, et un certain nombre de juges de liberté les ont remis en liberté en s'appuyant sur cette décision de la Cour européenne de justice.
Ah, donc c'est un point positif.
Voilà.
Et puis il y a eu cette décision jeudi à Nîmes, où un juge a annulé la procédure, puisque il a décidé de l'application immédiate de la décision de la Cour européenne de justice, puisqu'il y avait un sans-papier tchétchène qui avait été placé en garde à vue à l'issue de son contrôle d'identité. Et il a estimé que la garde à vue était illégale, à savoir que, comme il y a des décisions européennes, évidemment, normalement, elles doivent être transposées dans le droit français. Cette transposition, elle n'a pas été faite, mais le juge a estimé que il fallait pas attendre la transposition et que la décision de la Cour européenne de justice était applicable immédiatement.
Maintenant, ouais.
Ouais, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, puisque ça veut dire que potentiellement on ne peut pas incarcérer un sans-papier.
Tout à fait.
Voilà.
Mais on peut le placer en CRA, hein.
Ouais.
C'est autre chose. Hein?
Ouais. Alors, de toute façon, alors donc là, il y a 2 décisions sur lesquelles ça se base actuellement. Il y a effectivement une décision qui vient du fait que la France n'a pas transposé à temps les textes européens concernant l'immigration. Donc ça, c'est depuis fin décembre que c'est en application. Il y a un certain nombre de tribunaux, tribunaux administratifs qui vont dans ce sens. Il y en a d'autres qui continuent toujours à l'ignorer. Et puis il y a la deuxième décision, donc qui est celle qui a été prise par la Cour européenne des droits de l'homme. Non, la Cour européenne de justice le 28 ou 29 avril, qui l'a, c'est ça qu'on discutait, qui dit,
c'est ce que je disais, ouais. Ouais,
qui dit, et donc celle-là, apparemment, il y a des, donc là, elle est, c'est pareil, il y a des juges qui sont saisis tout de suite, et qui, alors le ministère de l'Intérieur a dit que la France allait s'asseyer sur cette décision de la Cour européenne de justice, parce que en France, quand des sans-papiers sont condamnés, il n'y a pas de sans-papiers, selon le ministère de l'Intérieur, pas de sans-papiers condamnés du simple fait qu'ils soient sans-papiers. S'ils sont condamnés, c'est parce qu'il y a eu des faits de rébellion. Et on a eu encore, il y a 15 jours sur Reims, une décision concernant un sans-papiers qui n'était même pas au courant qu'il était passé devant le tribunal, où il était simplement condamné sur le fait de s'être maintenu sur le territoire français sans papier et d'avoir fait usage d'un faux titre de séjour. Voilà. Et par contre, le ministère maintient, et c'est régulier quand il y a une campagne par rapport aux condamnations de sans-papiers, sur le ministère dit toujours que les sans-papiers qui sont condamnés, ils sont condamnés pour d'autres faits que oui, le fait d'être sans-papiers.
C'est pas très étonnant, dirons-nous, qu'il y a toujours des parades au niveau juridique. Est-ce que tu as discuté un peu avec les Tunisiens sur le pourquoi et le comment ils ont quitté la Tunisie?
Alors oui, hein. J'ai à côté de moi, là, il est au téléphone, mais il va venir. Hamdi. Hamdi fait partie du 9e collectif. Non mais termine ton coup de téléphone, Hamdi. Je suis à la radio, mais tu peux terminer ton coup de téléphone. Hamdi fait partie du 9e collectif, on en a déjà parlé. Et Hamdi, il est arrivé en France, t'arrives en 2002, c'est ça? 2002. Et Hamdi vient de Sidi Bouzid. Il est passé par Lampedusa et donc il est venu ici, il est solidaire de ses camarades. Mais je te le passe et puis tu vas pouvoir lui raconter, je vous le passe tout de suite.
D'accord.
Oui, bonjour.
Bonjour, alors bon, justement on s'intéressait, puisque on le sait un peu la réponse nous, mais nos auditeurs c'est pas évident. Ouais. Les gens se demandent, oui, pourtant il y a eu là-bas une révolution, etc. Et pourtant les gens se sauvent. Est-ce que tu peux un peu faire comprendre pourquoi ces gens-là, au risque de leur vie, parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, dans la mer Méditerranée, au risque de leur vie, partent de Tunisie?
Est-ce que vous pouvez répéter les questions? Franchement, je vous entends mal, il y a beaucoup de bruit là.
D'accord, est-ce que tu peux nous dire pourquoi des Tunisiens viennent aujourd'hui en France?
Ah d'accord, oui. En fait, vous savez très bien la situation en Tunisie, elle est grave, plus en plus. Et je crois, ça fait 3 jours là, la deuxième révolution vient de commencer. Donc, qu'il y avait des problèmes, quels que soient politiques, les révolutionnaires, ils ne trouvent pas, après la révolution, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement. Donc, quels que soient les diplômés, les jeunes diplômés en chômage, eh bien les jeunes qui ne sont pas diplômés aussi, donc c'est encore pire. Ils sont en chômage aussi, donc ils étaient obligés de quitter le territoire et croire qu'ils vont trouver mieux. Que la Tunisie, bon, l'arrivée c'était à Lampedusa de l'Italie, ils étaient bon un peu bien accueillis, donc après, c'est sûr certain, moi je suis sûr que la majorité parle français, donc ils peuvent pas rester en Italie, la Tunisie, et c'est la deuxième république française quand même. Donc, ils sont venus ici direction la France. Il y a quelques-uns, bon, il y a des centaines à Nice, à Marseille, à Paris, dans toutes les grandes villes. Donc, voilà. Maintenant, ils se trouvent dans une situation très, très grave. L'accueil de la France, ils sont mal accueillis, les révolutionnaires. Donc, aujourd'hui, c'est la chasse aux Tunisiens.
Ouais. Ça me paraît évident, oui, d'autant ouais. Plus que, eh bien, du côté français, c'est la trouille, hein, c'est la trouille d'être envahie, enfin, c'est le genre de discours ouais. Qu'on peut entendre, hein, des politiciens, mais pas seulement. Ouais. Donc, ça devient complètement fou, d'ailleurs. Ouais. Alors bon, est-ce que, actuellement, parce que j'ai entendu dire
j'ai même lu, je crois, qu'il y avait des négociations pour sur le avec le nouveau pouvoir tunisien pour que à la fin de ces 3 mois, 6 mois de présence soit en Italie soit en France, il y ait retour en Tunisie. Est-ce que tu es un peu au courant de ça?
Bon, franchement, je pense que c'est impossible. Par rapport, j'ai discuté avec pas mal de Tunisiens, ils sont pas d'accord de retourner en Tunisie. Si j'ai bien compris votre question.
Vas-y.
Ouais, en fait, ils veulent pas retourner en Tunisie parce que je vous ai dit il y a 3 jours, ça a commencé la deuxième révolution, car on a un ancien ministre qui a dénoncé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'est-ce que se passe exactement entre les gouvernements provisoires de transition. Donc franchement, c'est des trucs graves, ils voulaient casser cette révolution, voilà.
Voilà, donc tu parles en fait d'une contre-révolution qui est en marche en Tunisie.
Exactement, ouais. Exactement. Donc, je pense pas que les Tunisiens maintenant ils vont retourner en Tunisie comme ça pour rien. Hein. Ils viennent ici, ils cherchent la liberté, les papiers pour travailler. Peut-être si bientôt la Tunisie elle sera mieux et la révolution, c'est-à-dire les révolutionnaires, si ils gagnent cette révolution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Moi personnellement, je peux retourner en Tunisie, il n'y a aucun problème. Ouais. Bien sûr, toujours, je préfère mon pays mieux que je vivre à l'extérieur comme un étranger, tu vois.
Bien sûr, oui, tout à fait. Comme tout migrant d'ailleurs, hein. C'est pas par plaisir qu'on quitte son pays, c'est évident.
Bien sûr.
Ouais. Ok, bah écoute, si t'as d'autres choses à dire, n'hésite pas.
En fait, je vais parler concrètement. Qu'est-ce qui s'est passé les derniers moments par rapport aux Tunisiens, ils étaient dans des parcs, ils vivaient dans une situation grave. Et puis on a des camarades ici de CIP. Comment elle appelle des anarchistes. Donc c'est eux qui ont accueilli les Tunisiens, ils ont essayé de loger des centaines, 200-250 personnes à peu près. Donc et après les Tunisiens, ils ont discuté entre eux, en fait, ils ont fait pas mal de réunions. Ils posent des questions, est-ce qu'on peut faire des occupations pour obtenir quelque chose. Donc nous, ici, les Tunisiens qui vivent ici en France, bien sûr, on est là pour l'aider, pour le soutenir, et on prend pas la responsabilité. Et c'est pas nous qui décident, c'est eux qui décident.
Monsieur.
Nous, on propose, on conseille, et c'est à eux de décider. Bon, bref, on a décidé, on a organisé pour faire une occupation, tous ensemble, les Tunisiens, les révolutionnaires et les camarades, les soutiens. On a fait une occupation dans un immeuble à l'appartient de la mairie de Paris. Et après, il nous a proposé de nous séparer, de loger 100 personnes dans un foyer et 50 personnes le lendemain dans un autre foyer. Donc, il nous a dit aussi clairement que on garantit rien par rapport aux 50 qui vont rester dans l'immeuble, c'est-à-dire pour le lendemain. Il nous a dit aussi qu'on va, prévenir, on va contacter la préfecture de la police de ne pas intervenir avant 21h30. Donc je trouve c'est un peu risqué, c'est-à-dire il y a aucune garantie qui ils sont toujours en risque. Ils ont discuté entre eux, ils ont fait une réunion, ils ont décidé de ne pas quitter le lieu, ils vont rester solidaires entre eux, en attendant que des autres propositions au mieux que ça, tu vois.
D'accord.
On a resté 3 jours. Après, la police est intervenue, évacuation violente.
Oui, on en a parlé tout à l'heure, oui.
Ouais. Donc voilà, avec des hélicoptères, des nombres de gendarmes, des CRS, des civils, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. On dirait la révolution en Tunisie, c'est pas en France, tu vois. Donc il y a pas mal qui étaient déplacés dans des commissariats différents. Et après, l'envoyer dans des centres de rétention différents. Il y a quelques-uns qui étaient relâchés quand même. Il y a quelques-uns aussi qui s'échappaient. Ils ont réussi de s'échapper. On s'est organisé, on a essayé de mobiliser ce qui est resté à l'extérieur, quoi. De rester solidaire, de rester la main dans la main. Et puis, voilà, il y a quelques-uns qui sont sortis après de centre de rétention ou bien de garde à vue. Et il nous a rejoints. On a occupé un lieu à la partie de la mairie aussi. C'est sûr, certain, elle vous a expliqué.
Oui, le gymnase, c'est ça.
Ouais, le gymnase. Bon, maintenant, on est à 150 personnes. La négociation, ça a été sur 90 personnes. Il nous a dit comme quoi il y avait 50 places dans un foyer et 40 places dans un autre foyer. Donc maintenant, les Tunisiens, ils ont accepté ça. Ils ont demandé de leur... ils ont demandé aussi pour prolonger la période, pour rester plus dans le gymnase. Et ils demandent aussi un lieu pour se réunir, pour s'organiser.
Bien voilà. Sûr, c'est important parce que, de toute façon, si effectivement, c'est un problème de rapport de force, on le disait tout à l'heure, pour avoir des papiers en France,
ouais.
Et que pour ça, il faut rester tous groupés,
exactement.
C'est pas individuellement que les gens vont s'en sortir.
Ouais, ouais. Bon, par rapport à la préfecture, par rapport aux papiers, en fait, moi je pense qu'il faut faire des autres occupations.
Oui, je pense, oui, je pense que ça.
Ça n'a rien à voir avec la mairie, parce que
bien sûr.
Déjà, si on peut obtenir des foyers côte à côte, à côté, eh bien dans un immeuble, la partie de la mairie, pour faire reloger tous les Tunisiens de Lampadouze, je pense après ils peuvent s'organiser pour faire des occupations pour les papiers.
D'accord.
Voilà. Pour faire aussi, pas que des occupations, pour bouger, pour faire...
pour faire en sorte qu'il y aille...
Exactement,
ouais.
Exactement. Voilà.
Ok. Bah écoute, on te remercie bien.
Je vous remercie.
D'accord.
Allez, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Allô ?
Jean-Mi, oui ?
Oui, non, qu'est-ce que je disais ? Oui, il y avait aussi un débat par rapport à ce que disait, ouais, à ce que disait Amni. Il y avait l'envie d'occuper des lieux qui appartiennent directement à la famille Trabelsi Ben Ali.
Ben voilà, voilà, j'allais poser la question. Parce
ouais,
que bon, il y a des trucs qui courent, comme quoi la famille Ben Ali avait, ainsi que la famille de sa femme, aurait des tas de lieux achetés, des tas d'endroits, d'immeubles, sur Paris, mais moi j'en sais pas plus.
Alors bon, par exemple, il y avait une adresse possible, avenue Foch, hein, il y a un hôtel particulier qui serait largement assez grand pour loger tout le monde, mais tu imagines bien que si nous on a eu cette idée, en face aussi, hein, ils l'ont eu. Et ce qui est sûr, c'est que quand on est allé repérer ces lieux, on a vu qu'il y avait déjà des vigiles, hein,
d'accord, ouais.
déjà de la surveillance qui avait été faite, donc c'était un peu, comment dire...
risqué.
Très très risqué, quoi.
Ouais.
C'était un peu se jeter dans la gueule du loup, mais c'est quand même une option qui reste fortement envisagée et envisageable, parce que en plus, et c'est fait de manière très très intéressante, c'est que les Tunisiens ici disent mais ces lieux ils nous appartiennent.
Bien sûr, tout à fait.
C'est des lieux qui appartiennent au peuple tunisien, donc on doit en disposer comme tel. Il a été fait avec de l'argent volé aux Tunisiens. D'ailleurs, il faudrait quand même souligner ici le caractère très très intéressant de comment ça fonctionne. On voit que c'est des gens qui ont eu l'habitude au cours du mouvement qui a eu lieu en Tunisie de discuter, quoi. Donc ils sont peut-être pas forcément très politisés, mais ils sont pas vierges en termes d'expérience de mouvement. Donc les décisions, elles sont prises collectivement, quoi. Ça discute beaucoup. Alors, ça discute parfois trop. Ça discute longtemps, mais ça discute.
C'est super, c'est super.
Et c'est quelque part ce qui leur donne leur force et l'envie de vraiment rester ensemble, quoi. Vraiment rester ensemble.
Ouais. Et est-ce que, bon, il y a un truc que je me posais comme question. Si jusqu'à maintenant, et parce qu'il n'y a pas que les Tunisiens qui arrivent, hein, par Lampedusa, on a des informations comme quoi, par exemple, le week-end du 1er mai, il y a 2500 personnes qui ont arrivé sur cette île italienne. Et pas que des Tunisiens, il y avait des Libyens, il y avait des gens qui du Sub-Sahara, il y avait des Soudanais, etc. Bon, toutes les nationalités. Et tu t'aperçois que finalement, les dictatures faisaient tout en négociation avec les Européens,
ouais.
Faisaient tout pour que les gens se barrent pas et viennent en France. C'était, grosso modo, le deal qu'il y avait entre Ben Ali, mais aussi l'autre cinglé de Libye, avec les États français, etc. Et ça marchait, ça fonctionnait finalement pas mal. Hein. Et maintenant, effectivement, depuis que la dictature a des problèmes, et ben effectivement, les gens peuvent certainement beaucoup plus facilement partir.
Bah, t'as plus ce que nous disent les Tunisiens, c'est que t'as plus les flics, voilà. T'as plus la police qui patrouille dans les eaux territoriales tunisiennes et libyennes.
Alors, il faut rajouter quand même un point par rapport à la Libye, c'est que jusqu'ici, Kadhafi avait bien joué le jeu de chien de garde, puisqu'il y avait des centres de rétention en Libye. Hein,
ouais.
Voilà.
Pas pour les Libyens d'ailleurs, pour les gens d'Afrique noire.
Voilà, et là, à mon avis, il a lâché. Du lest, ben c'est un coup politique par rapport à l'Europe aussi. Hein, c'est pas dans la situation actuelle. Là, s'il y a des arrivées massives ces derniers jours de gens qui se trouvaient en Libye, je pense que Kadhafi n'y est pas pour rien. Il a donné son accord pour que ces gens puissent se barrer.
Oui, tout à fait. En plus, il y a eu Il y a un espoir qui est né, et il y a évidemment des informations qui se font entre les exilés et le pays. Et maintenant, on sait que c'est plus possible, si je peux me permettre de parler comme ça, de venir en Europe, quoi. Donc, il y a vraiment une inflation assez importante du côté des départs. Et comme de toute façon, ces flux avant migratoires qui étaient jugulés par les dictatures, elles le sont plus maintenant, ben, c'est pas qu'il y a plus de gens qui viennent, c'est qu'au jour maintenant, ils peuvent venir, quoi.
C'est ça, tout à fait. Au risque de leur vie, parce que, d'après ce que l'on sait, tous les jours, il y a des gens qui meurent.
Ouais, il y a eu un gros naufrage, je crois que c'est avant-hier. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, puisque tout le monde s'est jeté à l'eau, les gardes-côtes, les pompiers, les habitants pour aller chercher les rescapés, quoi. Mais il est évident que va y avoir des drames.
Là tu parles au large de Lampedusa, ouais. Mais apparemment il y a eu un gros naufrage au large de la Libye, et là c'est pas du tout la même chose,
ouais, bah, oui,
voilà. Oui, parce que je crois d'ailleurs les forces de l'OTAN, certaines forces de l'OTAN seraient accusées d'avoir laissé faire. En particulier, les Français auraient laissé faire. Alors, c'est la grosse polémique actuellement. Les Anglais accusent les Français d'avoir laissé faire ce naufrage. Bon, c'est ce qui se dit à la radio aujourd'hui. Hein. Mais bon,
ouais.
Peut-être que ouais. On en saura plus après.
Ouais, c'est pas étonnant aussi de jouer cette carte-là pour pouvoir dégoûter les gens d'entreprendre le voyage, quoi. Il y a 300 km entre les côtes libyennes et Lampedusa, quoi. Et ici, on nous dit, les Tunisiens qui sont là nous disent qu'ils ont des frères, des cousins qui attendent, alors à Gafsa ou à Monastir, qui attendent de partir, quoi. Donc il y a encore des milliers de personnes qui sont en attente de partir. Alors il y a aussi un truc qui est intéressant que je voulais rajouter, moi, c'est que bien évidemment, quand tu as une concentration comme ça, outre les associatifs, tu as aussi les politicards qui viennent, hein, et notamment les politicards tunisiens, puisque la communauté tunisienne, elle est présente depuis très longtemps en France, et l'opposition tunisienne, elle est organisée en France. Systématiquement, alors là, évidemment, on est dehors, donc ils ont encore le droit de traîner dehors, mais quand ils essayent de rentrer, ils se font virer, quoi.
Ah ouais, d'accord. Ah,
ils se font virer, et ils veulent pas, les occupants, ils veulent pas qu'on parle à leur place, quoi, en fait. Ah, et puis, de toute façon, non seulement ils veulent pas qu'on parle à leur place, mais toute personne qui, entre guillemets, a pas participé concrètement à ce qu'ils appellent leur révolution, elle est suspecte.
Ah ouais.
Tu vois, ils ont vraiment une haine contre non seulement Ben Ali, toute la clique, mais également l'entièreté de l'organisation de la société tunisienne et tous les relais qui pouvaient y avoir, les paravents, les gens qui étaient dans des associations caritatives, etc., et qui pouvaient critiquer à la limite du bout des lèvres certains aspects du régime, mais en tous les cas qui en profitaient également, quoi.
D'accord.
D'une manière ou d'une autre. Donc ça aussi c'est intéressant. Alors forcément, ça crée une rupture et ça fait que les Tunisiens ici sont un peu isolés, mais ça donne de la force à leurs revendications, quoi. Également, il y a quelques barbus évidemment qui sont venus, quoi, qui ont été très sympathiquement reconduits à l'entrée, puisque au départ ils avaient apporté de la bouffe, mais ça marchait pas. Ils avaient commencé à faire la morale sur l'alcool et les clopes, ça n'a pas fonctionné. Et puis ils ont apporté des fringues, mais ils ont apporté que des djellaba. Et donc les mecs ici ils veulent pas mettre de djellaba, quoi. Ça ne les intéresse pas de s'habiller comme ça. Ils ont envie d'autre chose, quoi. Donc c'est intéressant parce qu'ils ont aucune prise, ils sont complètement en décalage, quoi.
Ok.
Voilà.
Ah, c'est important.
Ah ouais, c'est très très bien. Truc, hein. C'est très très bien. Bon, ça, c'est dur. C'est très dur. Mais
est-ce que tu as des informations, parce qu'il parlait, lui, le copain qu'on a eu tout à l'heure, de la révolution confisquée, il parlait, enfin, je lui ai fait dire que c'était que la contre-révolution dont on se doutait un jour qu'elle arriverait était en marche en Tunisie. Est-ce que tu as des informations là-dessus?
Ah ben, ce que ils disent, c'est que il est hors de question qu'ils retournent en Tunisie dans l'état des choses actuelles, puisque en fait les flics ils sont toujours flics, quoi, et que les flics ils tirent toujours sur les foules.
D'accord.
Et que aujourd'hui, le gouvernement de transition, il est composé à une écrasante majorité
d'anciens
membres du gouvernement, quoi.
D'accord.
Et que c'est quelque chose qui n'admettent pas, quoi, et que ils considèrent que peut-être que la révolution elle est avortée, quoi, ou en tous les cas elle est en suspens, mais que pour eux c'est pas terminé, hein. Ils te disent que leur famille, leurs proches là-haut doivent continuer à se bagarrer, et que eux, quelque part, ils se posent dans une truc de relais, quoi. C'est-à-dire d'assurer le minimum, de venir ici pour assurer le minimum là-haut.
D'accord.
Pour que les gens puissent continuer à se battre.
Oui, parce qu'il y a problème social qui se pose, économique, parce que les gens, ils bouffent, ils crèvent de faim, quoi.
C'est la défaite. Il y a 5, comme on vient de dire, ouais, 40% de l'économie qui était liée au tourisme, et il n'y a plus du tout de tourisme, quoi. Donc c'est souvent des gens justement de cette côte-là, Tunis, Monastir, Bizerte, Hammamet, qui n'ayant plus d'emploi, vu que la saison touristique a commencé et qu'il n'y a personne qui vient, et ben on décide de partir, quoi, de tenter leur chance ailleurs.
Complètement.
Et d'ailleurs Delanoé, il y a eu un truc intéressant, hein, là, en discussion cet après-midi. Delanoé, il a une maison à Bizerte. Hein. Il a la double nationalité, d'ailleurs, il a une maison à Bizerte. Et il y avait des propositions d'aller occuper la maison de Delanoé en Tunisie.
Complètement.
Ouais. Donc tu vois, il y a quand même des trucs vachement intéressants, quoi.
Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter ou...
Bah, je pense que moi, je peux pas parler à la place des gens, mais à mon avis, ce qui serait intéressant de dire, c'est comment commencer une campagne pour construire un rapport de force vis-à-vis de la mairie de Paris et vis-à-vis de la préfecture. Alors, je ne sais pas ce qui va être décidé ici. Il va certainement y avoir des déambulations, des manifestations, comme le disait Amdi, d'autres occupations, etc., etc. Bon, il est évident que les gens qui sont à l'extérieur de Paris vont pas pouvoir avoir une action sur ce truc-là. Mais à mon avis, ce qui se joue là, c'est extrêmement important pour la suite. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, politiquement, est très intéressant, quoi. Donc on peut imaginer qu'il y ait des campagnes de coups de téléphone, de mails, de courriers, etc., etc., quoi. Et que s'il y a des Tunisiens qui nous écoutent, qui peuvent constituer dans leur ville des collectifs de solidarité pour s'organiser et poser la question et faire pression sur la préfecture de police de Paris, le gouvernement français, la mairie de Paris, pour pouvoir influer en faveur des occupants du gymnase de la Fontaine au Roi, quoi. Moi, en tous les cas, si j'ai une proposition à leur faire, c'est quelque chose de cet ordre-là, quoi.
D'accord. Ok.
Voilà. Donc, on va continuer. Normalement, il y avait un sauf-conduit pour aujourd'hui sur le gymnase. Vu le monde qu'il y a ici, ça serait vraiment. En plus, on est à Belleville. Hein. Donc,
ouais.
Belleville est juste au-dessus. Hein. Il y a le marché aujourd'hui de Belleville. S'il y a une intervention policière, ça risque de leur coûter cher, quoi. Ça va pas, à mon avis, ça va pas se faire comme ça, quoi. Hein. D'ailleurs, les policiers qui étaient là en début d'après-midi se sont tirés, sont extrêmement discrets, quoi. Hein. Donc, à mon avis, ils sont dans une bonne situation pour eux pour le moment, quoi. Donc, ça peut continuer jusqu'à la fin de la semaine, mais on va voir le résultat de la négociation et de l'entretien entre la délégation de l'hôtel de ville et les représentants des Tunisiens qui a lieu en ce moment, quoi. Voilà.
Ok.
Voilà, voilà.
Bon, bah écoute, on te remercie, et puis à très bientôt.
ouais, normalement, oui. Bon, très bien, bonne soirée à vous.
Allez.
Et bon courage. Okay. Au revoir.
Au revoir.
Comme Moïse dans le désert, disait à son peuple assoiffé, je vous mènerai aux rivières où coule le miel et le lait. Mais attendez, attendez, vous allez y arriver. Prenez courage, patience, vous allez y arriver. Attendez. Et son peuple a trouvé la faim et la misère, et la folie et la guerre. Il était dernier. Comme Jésus sur la montagne disait aux esclaves affamés, le corps est la prison de l'âme, bientôt vous serez libérés. Mais attendez, attendez, vous allez y arriver. Tendez la joue à vos ennemis, vous irez droit au paradis. Attendez. Et les esclaves ont trouvé la faim et la misère, et la folie et la guerre. Il restait berné. Comme les bourgeois ont dit aux démolisseurs de Bastille, l'industrie va rapporter à tous bonheur, prospérité. Mais attendez, attendez, vous allez y arriver. Bien sûr, vous allez suer, mais vos gosses vont en profiter. Attendez. Et l'ouvrier a trouvé la faim et la misère, et la folie et la guerre. Il restait dernier. Ainsi on vient nous dire aujourd'hui, le socialisme n'est plus très loin. On vous y mène la rose au poing, votez, votez pour le parti. Mais attendez, attendez, vous allez y arriver. Ce n'est que petit à petit que les oiseaux font leur nid. Attendez. Et depuis, chaque matin, même travail, même train. À quand la prochaine guerre? Nous sommes encore bernés. Et qu'ils ne viennent plus nous parler des générations sacrifiées. Mais la vie naît de la lutte, tout ce qu'on a, on l'a gagné. Osez lutter, osez vaincre, nous n'aurons jamais assez. On a raison de se révolter, on a raison de se libérer, d'attaquer.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, je crois qu'il y en a beaucoup, c'est le groupe d'action musicale belge. Vous pouvez d'ailleurs rencontrer, vous pouvez écouter tous leurs disques sur Internet en tapant sur moteur de recherche GAM, G-A-M, Belge. Il n'y a pas de problème. Alors le groupe GAM, nous on le connaît bien puisqu'on l'avait rencontré dans les années 80 au niveau de la lutte de chaud. D'ailleurs c'est un groupe qui a toujours été dans les luttes et qui a toujours fonctionné avec les gens qui luttaient. Et ils en ont sorti des tas de chansons de la classe ouvrière, mais aussi anti-flic, mais aussi anti-nucléaire, mais aussi anti-militariste. Je crois qu'il y a tout un truc à découvrir là, et c'est quand même assez étonnant au niveau même au niveau musical, hein, parce que c'est loin d'être évident au niveau musical. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Alors c'était une pub comme ça, tout à fait gratuite. Alors pendant que j'y pense, on est aujourd'hui le 9 mai. Hier, c'était le 8 mai. Et il y a des tas de gens qui ont fêté la victoire des Alliés, des résistants, etc. Ils ont oublié qu'il y a 66 ans, il y a aussi des Algériens qui sont descendus dans les rues à Sétif pour rappeler au général de Gaulle et à l'État français leur aspiration à l'indépendance. C'était le 8 mai 45. l'État français et le général de Gaulle, etc., ben, ont répondu par les armes. Il y a eu des dizaines de milliers de morts en Algérie, des gens qui demandaient tout simplement l'indépendance. Et je crois que ce qui s'est passé à Sétif en 45, qui est complètement occulté au niveau historique maintenant, on n'en cause quasiment plus. On n'en a jamais d'ailleurs causé, d'ailleurs, je disais plus, mais on n'en a d'ailleurs jamais causé. Tout ce qui s'est passé à Sétif en 1945 va certainement être vraiment important pour la suite de la lutte d'indépendance du FLN et de tout ce qui se passe encore aujourd'hui dans ce pays, en particulier la violence qui a été terrible, puisque en 1945, c'est l'armée de libération de la France qui, à la mitraillette, ont descendu des milliers d'Algériens. Voilà, je crois que c'était quand même important à rappeler ce 6 mai 45. Ce 8 mai 45, ce n'était pas que le triomphe des antifascistes français. Alors ensuite, que vous dire aussi ? Ben, il y a beaucoup de choses à vous dire. Au niveau du nucléaire, alors là, il y a un transport qui est bien sûr tenu secret, au mépris de tout le monde, en particulier des cheminots, de la population, puisque c'est un transport qui passe par les rails, que c'est un transport qui vient d'Italie via La Hague. C'est un transport hautement radioactif avec des déchets venant d'une centrale nucléaire italienne qui est démarré, qui est parti ce matin, 9 mai, et qui devra arriver demain soir, le 10 mai, donc dans la région de La Hague. Alors ça, c'est bon, il y a quand même des gens qui commencent à réagir, en particulier les cheminots, puisque ben, les cheminots ne sont pas plus au courant que les populations, et ils peuvent être amenés, eux, dans leur travail, eh bien, à être très près de ces wagons hautement radioactifs.
Alors, apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre par un mail que j'ai reçu cet après-midi, il y aurait eu des affrontements en Italie par rapport à ce truc-là, et que le train aurait été détourné, et ils l'ont fait passer par un... Parce que, bon, il y a des opposants au TGV...
Qui sont très motivés justement pour lutter contre le nucléaire, puisque comme on le sait, sans nucléaire, il y aurait un peu moins de TGV, et réciproquement, plus il y a de TGV, plus il y a besoin d'énergie électrique. Alors par rapport aux déchets, maintenant cette fois-ci, on en parlait, les déchets nucléaires, on en sait un peu plus pour Bure, hein, puisque l'ANDRA et la filière nucléaire avancent en Meuse, en Haute-Marne. Le projet d'enfouissement des déchets hautement radioactifs ou de moyenne activité à vie longue se précise. Les plans annoncés dévoilent trois éléments. Il y aura un site d'enfouissement à moins 500 mètres, donc sous terre, dans l'argile, mais aussi deux installations nucléaires de base en surface, à savoir un centre de stockage intermédiaire et une usine de reconditionnement de ces déchets. Donc ça craint un max, c'est moins qu'on puisse dire, dans la région Champagne-Ardenne. Alors, que dire si ce n'est que c'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver. L'enquête publique ne sera pas close avant 2014, donc ça laisse du temps à se mobiliser, justement. Ça laisse du temps à ce que, eh bien, à Bure, il y ait vraiment un mouvement contre ce nucléaire. Et puis, il y aurait le début des travaux et serait prévu en 2017. Et l'arrivée des premiers colis en 2025, vous allez dire tout ça, c'est très loin, mais ça peut être encore d'autant plus loin si on se mobilise. Voilà, on va peut-être faire une autre pause musicale, à moins que... Non, voilà.
Tu aurais cru quand on a décidé de rester, décidé d'occuper, qu'après bientôt deux mois, on serait encore là. Est-ce que tu aurais cru qu'on se serait battu? Est-ce que tu aurais cru qu'on se serait connu, qu'on se serait parlé, qu'on se serait tenu, qu'on se serait aidé, qu'on se serait dit tu. Est-ce que tu l'aurais cru? Il faut l'avoir vécu. Est-ce que tu aurais cru ou seulement espéré voir nos enfants jouer, nos enfants s'amuser sur leurs belles moquettes, leurs fauteuils à roulettes? Est-ce que tu aurais cru ça mérite d'être vu? Bien sûr, je sais, c'est dur, on dort peu et ça dure. Bien sûr, les lendemains sont encore incertains, mais on revient quand même, personne n'est forcé. Est-ce que tu as cru, on lutte en liberté? Est-ce que tu aurais cru qu'on pouvait préférer venir se réunir, venir se retrouver? Ce qui est arrivé ne peut plus s'oublier. Est-ce que tu aurais cru, et ce n'est qu'un début? Ce qui est arrivé est déjà formidable. Est-ce que tu aurais cru qu'on en était capable? Et ce n'est qu'un début. Et ce n'est qu'un début. Et ce n'est qu'un début.
Je vais vous parler aussi d'une autre mobilisation qui a lieu demain. À Paris, devant le Sénat, qui concerne la psychiatrie. Il y a une loi qui devrait peut-être pas passer, parce qu'il y a quand même un bon rapport de force qui s'est constitué contre cette loi de réforme d'une loi du 27 juin 1990 concernant l'hospitalisation d'office. Alors, que dit cette nouvelle loi? Ben, elle donne beaucoup plus... Ce nouveau projet de loi, c'est pas encore voté, elle donne beaucoup plus de pouvoir au préfet par rapport à l'hospitalisation d'office, justement, et surtout les sorties déjà qui étaient difficiles en hospitalisation d'office, puisque les préfets doivent normalement donner leur aval, et que dans la plupart du temps, ils ne donnaient pas par peur, tout simplement, qu'il y ait un problème d'ordre public, puisque le pouvoir actuel, et en particulier Sarkozy, avait dit qu'au préfet, si jamais il commettait ce type d'erreur, si jamais il y avait quelqu'un qui était en hospitalisation d'office et qui était libéré et commettait un acte important au niveau de la sécurité des personnes, eh bien le préfet serait rendu coupable, ce qui fait responsable, ce qui fait que depuis pas mal de temps, et les préfets ne signent rien du tout concernant la fin des hospitalisations d'office. Et cette loi rajouterait une louche au niveau sécuritaire si elle passait, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque toute la profession actuellement se mobilise, que demain devant le Sénat il va y avoir à mon avis du monde, que toutes les associations, organisations syndicales directement liées à la psychiatrie seront là. C'est pas la première fois qu'ils se mobilisent. Faut voir aussi que dans ce projet de loi il y a aussi en filigrane le fait que finalement les gens qui auraient des problèmes psychiatriques ne seraient plus forcément dans un hôpital psychiatrique, mais seraient amenés à être balancés chez eux avec un bracelet électronique pour qu'on sache à tout moment où ils sont. Et en plus, tous ceux qui auraient affaire à la psychiatrie d'une manière ou d'une autre seraient fichés. Et ça, bon, sans doute bien, on en parle assez souvent ici au niveau de notre rubrique Big Brother. C'est évident que cette loi, si elle passait, eh bien, on rajouterait une louche au niveau du sécuritaire concernant la psychiatrie. Mais, c'est pas fait, puisqu'il y a du monde qui se mobilise. Est-ce qu'on a d'autres choses encore à dire? Je sais pas.
Moi, je pense qu'on va faire de la pub pour nos journaux et revues qui sont sortis ces
C'était ce dernier jour, puisque le Chat Noir, notre journal local, donc est sorti. C'est un numéro double,
26-27,
où on parle beaucoup du nucléaire, hein, avec ce qui s'est passé au Japon, mais aussi ce qui se passe localement, qui vous donne des infos. Il y a aussi une grosse rubrique sociale de ce qui se passe entre niveau des fermetures d'usines, licenciements, grèves, et surtout suite de conflits, parce que souvent on oublie ce qui s'est passé, puis il y a des choses intéressantes qui se passent. Des gens gagnent des choses des fois devant les tribunaux, etc., etc. Donc c'est toujours intéressant. Là, dans les en ce moment, il y a par exemple dans l'Aube, il y a une imprimerie qui est fermée et les gens sont en train de, parce que il n'y a pas eu de repreneur. C'est une grosse imprimerie, il y avait quand même 250 salariés et les ouvriers sont en train de se poser le problème de reprendre l'entreprise sous forme d'une société coopérative de production, parce qu'apparemment il y a des débouchés pour cette entreprise, parce qu'elle est très spécialisée. Simplement, bon, malgré tous leurs essais, bon, voilà. Et alors, pour compléter, donc il y a le Chat Noir. Pour le Chat Noir, il y a un nouveau site qui a été créé très récemment. Donc on peut retrouver, donc il faut faire http://www.lechatnoir51.fr, et entre autres vous pourrez retrouver les émissions que l'on fait tous les lundis. Voilà.
D'accord. Et puis il y a surtout aussi notre mensuel national, cette fois-ci, Courant Alternatif du mois de mai, qui est sorti. Si ça vous intéresse, c'est bien, vous pouvez toujours en demander un numéro gratuit en écrivant à notre boîte postale, Égrégore boîte postale 12 13 51 058 Reims CEDEX, ou tout simplement en nous laissant un mail à
oclibertaire@hotmail.com. papa.fr.com. Voilà.
Bon, alors on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
En nous unissant, les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatale, pas du tout. On non la considérons pas fatale. Il y a un petit métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions et vous retirez sur le côté gentiment. Monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, vous étiez à l'écoute de l'Égrégore. L'Égrégore, une parole anarchiste communiste que l'on peut entendre sur Radio Primitive sur Reims, l'École Égrégore à Montpellier et Canal Sud à Toulouse.